Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de la communion avec Dieu. Quand on y pense, la communion avec Dieu, c'est ce qu'un chrétien a de plus précieux. C'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est cette relation personnelle que nous avons avec lui qui nous dit « tu es en paix, tu es en paix avec ton Dieu ». C'est cet accès libre, permanent, on a plein de liberté, hein, on a accès au trône de la grâce, tout le temps, à chaque instant. C'est aussi le fait de sentir son approbation. Hein, quand vous vous sentez approuvé de Dieu, oh là là, mais y a rien de meilleur, il n'y a rien de meilleur. Un des exemples les plus frappants d'une vraie communion avec Dieu, ben, on l'a vu dans le psaume 23 que Francisco a lu, mais c'est David. Hein, bah, il dit « L'Éternel est mon berger ». Vraiment, il avait cette communion avec Dieu. Il avait une vraie relation avec Dieu. Et certainement, il a vu toute la valeur de sa relation avec Dieu quand il a perdu sa communion. À un moment, il l'a perdu. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le psaume 32 ? Il a dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Il avait perdu sa communion avec Dieu à cause du péché. Hein? Et là, eh bien, là, il commençait à souffrir dans son âme. Il me manque quelque chose. Hein? Peut-être qu'il ne réalisait pas combien elle était précieuse jusqu'à ce qu'il arrive dans cette situation où là, il en était privé. Et, voilà, quand vous avez quelque chose et d'un seul coup, vous le perdez. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la plus grande bénédiction, être en communion avec Dieu. Et il y a quatre mots, commençant par un F, qui caractérisent la communion avec Dieu. On va voir d'abord que cette communion, elle est fragile. Elle est très fragile. Elle est aussi très facile. C'est incroyable comme elle est facile. Elle n'est pas facultative. Et elle est une faveur que Dieu nous donne. Alors j'aimerais pour ça qu'on prenne 1 Jean. Et on va lire 1 Jean chapitre 1 verset 5 jusqu'à chapitre 2 verset 2. Donc 1 Jean 1 verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors dans ce passage, on a vu au verset 5, hein, l'apôtre Jean commence par nous apprendre une nouvelle. Et il dit « Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres ». Dieu est lumière. Il n'y a pas beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui enseignent cette vérité que Dieu est lumière. C'est pour ça qu'ils disent, voilà, la nouvelle, nous vous donnons une nouvelle. Dans l'Ancien Testament, il y a quelques versets, par exemple, David encore a dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Par révélation, hein, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Un autre psaume nous apprend que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Et puis Ésaïe nous dit encore, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. » Voilà. Mais quand vous regardez l'enseignement Dieu et lumière, ben vous le voyez assez peu, à part ces versets, eh ben on ne trouve pas d'autres enseignements sur le fait qu'il est lumière. Par contre, ce qu'on trouve beaucoup, c'est que Dieu est saint. Alors là, il y a énormément de versets qui nous parlent de la sainteté de Dieu. Il y a tout le livre du Lévitique qui nous parle de la sainteté de Dieu. Et la sainteté est toujours liée à la lumière, de même que le péché est lié aux ténèbres. Les deux vont ensemble. On peut dire Dieu est saint, il n'y a point en lui de péché. C'est aussi juste que dire Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. C'est pareil. Et dès le début de la Bible, dans la Genèse, on voit que Dieu a créé la lumière physique que l'on voit avec nos yeux. Et il dit qu'elle est une bonne chose. Alors Dieu sépara la lumière des ténèbres. C'est la première mention de la lumière et des ténèbres dans toute la Bible. C'est dans la Genèse, chapitre 1 et versets 3 et 4. C'est vraiment les premiers versets de la Bible. Certainement, si vous n'avez pas lu toute la Bible, vous avez été au moins curieux de lire ces premiers versets de la Genèse. Chapitre 1, versets 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit... Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et on sait que quand il y a la première mention d'une chose dans la Bible, c'est vraiment important. C'est pour ça que le livre de la Genèse, il est précieux. Chaque fois que Dieu mentionne une chose pour la première fois, eh bien, on va retrouver souvent la signification, ça va garder, elle va être gardée dans toute l'histoire, en fait, hein. Et là, eh bien, on a un enseignement. Dieu sépare la lumière des ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. C'est une évidence, même physique. Hein. Vous voyez le soleil qui se lève, les ténèbres s'enfuient. Vous allumez la lumière, les ténèbres de fait s'enfuient. Mais Dieu n'a pas fait cela uniquement pour qu'on vive la vie physique et que l'on voit. Il y a aussi tout un enseignement spirituel dans le fait que Dieu sépare la lumière des ténèbres. Parce que les ténèbres, eh bien, il y a l'image du péché, et la lumière, il y a l'image de la sainteté. Et Dieu sépare les deux. Et nous tous qui étions autrefois dans les ténèbres du péché, Dieu nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, un royaume de lumière. Voilà, celui qui est en Christ, il est dans la lumière de Dieu. Un autre verset, il est dit, « Nous sommes tous des enfants de lumière et des enfants du jour, et nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. » C'est un changement. Et puis un autre verset, il est dit, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Tout ça dans 1 Pierre. Et c'est une grâce que Dieu nous ait fait changer de royaume, changer de camp, changer même d'être. Nous ne sommes plus les mêmes, hein. Nous sommes devenus des enfants du jour. Nous sommes des enfants de la lumière, en communion avec un Dieu qui est lumière et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Il est dans une... Voilà, c'est quelque chose qui brille, on ne peut même pas l'imaginer. Même le soleil ne brille pas à côté de Dieu. C'est merveilleux. Avoir une communion, voilà, libre et d'un accès facile. Mais cette communion, elle est fragile. Regardez verset 6. Un premier épître de Jean, chapitre 1, verset 6. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et on voit que la communion avec Dieu dépend de notre marche, c'est-à-dire de notre manière de vivre, d'agir, de nous comporter. Eh bien, c'est ça qui fait qu'on va être en communion ou pas avec notre Dieu. Une marche dans les ténèbres, c'est-à-dire une marche dans le péché, en pratiquant le péché, eh bien, nous coupe instantanément de la communion avec Dieu. Il ne faut pas 10 000 péchés pour être coupé de la communion avec Dieu. Un seul. Il ne faut pas un gros péché. Un petit péché suffit. Et la communion, elle se brise. Un seul péché non confessé, ça suffit pour nous ramener vers les ténèbres. Et si on persévère, eh bien, on va demeurer dans les ténèbres. On revient dans les ténèbres. Et c'est plus la peine de parler de communion avec Dieu, puisqu'il n'y a plus de communion avec Dieu à partir du moment où on est dans les ténèbres. C'est terminé. Celui qui pêche et prétend être en communion avec Dieu, eh bien, il n'est pas en communion. Il est dans les ténèbres. Il ne dit pas la vérité. Et le malheur, c'est qu'il arrive que nous, enfants de Dieu, eh bien, on est chrétiens, on pêche, et on croit malgré cela être encore en communion avec Dieu. On a perdu un peu la sensibilité. Ça arrive parfois. Nous le croyons parce que peut-être on a rendu son péché acceptable aux yeux de Dieu. Hein, on a essayé de jouer un peu avec sa conscience. À force de raisonnement, vous savez, les pensées s'accusent, se défendent tour à tour. Et puis finalement, on fait taire notre conscience et puis on se dit « Non, tout va bien. Tout va bien. Je continue mon chemin. » C'est le cas, par exemple, de celui qui est son frère. Jean nous en donne un exemple. Regardez chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 et versets 9 à 11. Donc il parle encore d'un frère, il dit. Il dit « Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Et ici, c'est le cas d'un enfant de Dieu qui va tomber dans une haine. C'est pas forcément, vous voyez, comme ça. Hein. Des fois, la haine, elle est bien cachée, elle est là, elle est tapie au fond du cœur. Hein. L'amertume, le rejet. Hein. Et très certainement, eh bien, on justifie parfois sa haine ou son rejet. On se dit, ouais, mais quand même, hein, avec tout ce qu'il a fait, hein, et il n'a pas été gentil celui-là. Il s'est comporté mal. Et on va trouver des moyens de justifier finalement la haine qu'il y a au fond de notre cœur. Mais l'apôtre Jean dit, il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il dit, il est complètement aveugle. Il ne voit plus clair. Son péché lui a fermé, lui a bouché sa vue spirituelle avec le cœur. Il pense voir et il ne voit plus rien. Ce qui fait que même lorsqu'il va ouvrir la Bible, eh bien, il va trouver le moyen de justifier finalement sa manière de penser. Même, il va trouver des versets qui vont le justifier. Un seul péché, et hop, on glisse dans les ténèbres. Un seul péché. Et on devient aveugle avec le temps. Il y a d'autres péchés qui nous mènent dans le même chemin. Une désobéissance, et hop, on glisse. Et on peut, si on continue, eh bien, on va finir par ne plus voir clair. C'est le fait de rester dans les ténèbres. Eh bien là, petit à petit, voilà, la vue s'obscurcit et on finit par ne plus voir. Jusqu'à une vraie repentance. Et donc, la communion avec Dieu, elle est fragile. Elle est très fragile. Nos péchés peuvent la tuer. Alors qu'en soi, la communion avec Dieu, elle est facile. Elle est incroyablement facile quand on y pense, à posséder. Hein. C'est quelque chose de merveilleux, la facilité avec laquelle Dieu nous offre cette communion parce qu'on s'est repenti, on a cru en son Fils bien-aimé. Regardez le verset 7, 1 Jean 1, verset 7. Il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion » et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il suffit que je marche dans la lumière, c'est-à-dire sous le regard de Dieu, dans une pleine lumière, exposant ma vie, ne cachant rien, rien de mes chutes, hein, rien de mon péché, rien de... Voilà, je ne cache rien, je reste dans la lumière. Alors, eh bien, je suis en communion. Et la lumière de Dieu, je la laisse pénétrer ma vie, en fait. C'est ça. David disait, sonde-moi, ô Dieu, hein? Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il restait continuellement dans la lumière de Dieu. Et c'est ça qui lui assurait la communion. On va dévoiler tout ce qui ne va pas. Dès qu'il y a un doute, quelque chose, oula Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui te déplaît là ? Rien ? Ok, tout va bien, on continue. Mais c'est ça, une communion continuelle avec le Seigneur. Quand Jésus est venu dans le monde, Jésus a dit, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Hein ? Vous savez, quand on fait ce qu'il ne faut pas, on préfère aller dans les ténèbres, c'est-à-dire on sort de la lumière de Dieu, on ne reste plus exposé. Ils n'ont pas cherché Jésus-Christ, au contraire, ils l'ont fui, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs œuvres mauvaises soient dévoilées. Et la tendance de l'homme, lorsqu'il pêche, eh ben, c'est de se cacher. Il va fuir immédiatement Dieu. On le voit avec Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont péché tout de suite. Ils ne sont pas restés dans une clairière bien exposée à Dieu, non. Ils sont allés sous les arbres, dans la pénombre, hein, ben, voilà, dans les ténèbres. Ils sont allés se cacher sous les arbres du jardin. Marcher dans la lumière, c'est demeurer dans la lumière de Dieu. Nu parfois, hein. Parfois on se sent nu parce que ben, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, mais on reste dans la lumière et on dit, Seigneur, là, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pas un instant se cache de lui. Pas un jour, pas un mois, pas un jour, pas une minute, pas une seconde. Dès que je pêche, immédiatement, je demande pardon. Et vous savez, quand un chrétien demeure dans la lumière, eh ben, il ne peut pas aller loin dans le péché. C'est pas possible. Parce que dès qu'il fait un pas dans les ténèbres, il est tellement habitué à la lumière que ça va pas. Ça va pas. Et hop, il revient vite et il reste dans la lumière. Il expose son péché. Il est alerté. Le Saint-Esprit l'alerte. Il y a quelque chose qui va pas. Alors il revient tout de suite. Il revient immédiatement. Celui qui va loin dans le péché, c'est qu'il commence à aller un peu dans la pénombre, dans ses raisonnements, dans son péché, dans les mauvaises décisions, et puis ben, il ne revient pas. Ben, il va faire un pas de plus, hein. Puis ben, ça s'obscurcit. Et après, ben, voilà, on est dans les ténèbres. Alors que la communion avec Dieu, elle est facile. On marche dans la lumière de Dieu, si notre pied s'écarte dans l'ombre, immédiatement, on le confesse. Et là, le verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Combien c'est facile ! C'est vraiment... Il n'y a pas plus simple. Hein. Dès qu'il y a chute, je dis « Pardon Seigneur », immédiatement la communion m'est rendue. C'est immédiat. L'aveu immédiat de notre péché maintient intacte la communion avec lui. C'est un cadeau de Dieu. Hein. Bien sûr, on n'est pas parfait. Le verset 8 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Le verset 10 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc c'est certain, on est pécheur, voilà, on va tomber, on ne restera pas parfait jusqu'au retour du Seigneur. Mais si immédiatement on prend conscience, on revient, on confesse, eh ben, ça nous permet de vivre une communion avec Dieu qui est presque ininterrompue. C'est une petite chute, pardon Seigneur, je reviens. Une petite chute, pardon Seigneur, je reviens. Et on reste en communion avec Dieu tout le temps, à chaque instant. Il faut garder ce lien précieux avec le Seigneur. Chaque fois qu'on trébuche, on demande pardon. Et là, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie, me purifie de tout péché. La communion, elle est faite par le sang de Jésus. Parce qu'il a versé son sang, il est toujours efficace pour nous laver de tout péché. Et immédiatement, il nous purifie. C'est facile. Maintenant, le fait que ce soit facile, le fait que le pardon peut m'être immédiatement accordé, ça ne m'autorise pas à brader ma communion avec Dieu. Et on l'a tous vécu, hein. Parfois, voilà, on a négligé la communion. La communion, elle ne devrait pas être quelque chose de facultatif. Regardez ce qu'il dit, 1 Jean chapitre 2, verset 1. Le début, il dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » On relit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Voilà. Et si Jean nous explique comment marcher dans la lumière, c'est pour qu'on le vive et qu'on marche effectivement dans la lumière. C'est pas parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, qu'on peut brader la communion avec le Seigneur ou se sentir libre de péché. Dans l'Épître aux Romains, vous connaissez ce verset où Paul dit « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» C'est pas possible. On va pas rester dans le péché. Pour l'apôtre Paul, il va de soi qu'on ne peut pas continuer à vivre dans les ténèbres. Parce que nous ne sommes plus ténèbres. Et c'est certain que le Seigneur est affligé lorsqu'il voit son enfant qui n'a pas souci de cette communion qu'il lui offre et qui va rester dans les ténèbres. Là, le cœur du Seigneur, il se déchire. Je t'offre ma communion et tu restes loin de moi, tu te prives de cette communion. Il a été crucifié pour nous donner cette communion. Il ne faut pas l'oublier. La Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et la communion, cette communion, elle a coûté cher au Fils de Dieu qui a donné sa vie, elle a coûté cher au Père qui a offert son Fils pour nous la donner. Alors l'enfant de Dieu qui brade cette communion en péchant volontairement, Dieu ne peut pas le regarder avec approbation, c'est certain. Il y a comme une cassure entre le Père et son Fils. Bien sûr, une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour l'éternité, la vie éternelle. Voilà, Dieu nous sauve, c'est pour toujours. Il y a un lien filial qui est créé par la nouvelle naissance qui est définitif. Quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il arrive. Ça a un caractère éternel. Même quand vous prenez simplement un enfant dans la chair, l'enfant sera toujours l'enfant de son père, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Si Dieu a pris l'image de la nouvelle naissance, c'est pour nous montrer la même chose. C'est qu'une fois qu'on est né de nouveau, on est enfant de Dieu pour l'éternité. Même si, eh bien, nous venions à nous perdre dans les ténèbres. Et moi, si un de mes enfants persévère dans le péché, dans la désobéissance, je ne peux pas lui dire « c'est bien, continue, je t'approuve ». Non, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une cassure. Hein. Le péché entraîne une cassure. Et le chrétien qui prend sa communion avec Dieu comme étant facultative, eh ben, il en paye aussi les conséquences. Quelles sont les conséquences ? La première, c'est le visage de Dieu qui ne lui est plus favorable. Dieu ne lui est plus favorable, là, dans cet instant. Et c'est quelque chose qui compte énormément pour celui qui a connu l'approbation dans sa vie. L'approbation de Dieu. Quand vous avez connu cette approbation, comme je vous disais, c'est on n'a plus d'air. Quand on vit une vraie communion avec Dieu, alors on commence à ne plus pouvoir se passer de cette communion. C'est vital. On en a de plus en plus besoin. Savoir que Dieu est avec nous, qu'il nous approuve, qu'on a mis les pieds exactement là où Dieu voulait qu'on les mette, qu'on a fait ce qu'il voulait. On ne peut plus vivre sans cela. Et quand on marche dans les ténèbres, c'est terminé. Ça se coupe. Cette approbation, on sent qu'elle est partie. Elle est partie. On perd la bénédiction. Hein. Dès que nous péchons, on est seul. On se retrouve seul, seul dans nos choix, dans nos décisions, on devient tout seul. Et c'est terrible, terrible. Et celui qui a connu vraiment l'intimité avec le Seigneur, il ne peut pas rester longtemps. Parce qu'il ne vit plus, il ne vit plus. Il revient à son Seigneur. Dieu ne nous est pas plus favorable. Première conséquence. Deuxième conséquence, à une marche dans les ténèbres, c'est petit à petit la domination du péché dans notre vie. Le péché commence à avoir le dessus dans notre vie. Je vous lis un verset, Jean 8, 34, il dit « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et là, sans communion avec Dieu, on devient un esclave de son péché. Quand on va flirter avec les ténèbres, à ce moment-là, on glisse et puis on devient esclave. On devient enchaîné en quelque sorte par son propre péché et on n'arrive plus à s'en sortir. Hein. On a besoin aussi de Dieu pour sortir des ténèbres. C'est laisser la chair finalement vivre en nous et s'épanouir dans la désobéissance et dans les ténèbres. Alors, eh bien, elle prend de la force, elle commence à se renforcer. Et ça devient très dur après de s'arracher et repasser de l'autre côté. On a besoin de crier vers Dieu, « Seigneur, secours-moi, il y a quelque chose qui ne va plus. Je veux revenir à toi de tout mon cœur pour repartir de la bonne manière. » Il est dit dans la Bible, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Vous mourrez. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir physiquement, obligatoirement. Hein, mais vous allez vivre une vie de mort. Vous ne vivrez plus la vie du ressuscité. Vous serez enchaîné et vous mourrez. Voilà, vous serez comme un mort. Alors que vous êtes appelé à la vie et à vivre par l'Esprit, par Jésus-Christ, libre de votre péché, dans la communion avec le Seigneur. Une troisième conséquence logique, c'est la tristesse, l'insatisfaction, le mal-être, le sentiment d'échec. Vous vivez tout ça en même temps. Le chrétien né de nouveau, il ne peut pas être heureux quand il est coupé de son Dieu. Quand il n'a pas cette communion, il n'est pas heureux dans la désobéissance et l'esclavage du péché. Il est malheureux comme une pierre. Il le supporte un temps, parce que les petites jouissances de son péché parfois lui procurent un bien-être éphémère. Hein. Mais au final, il est mal. Il s'en trouve très mal. C'est pas pour cela que Dieu nous a sauvés et recréés en Jésus-Christ. Alors, eh bien, le mal-être va grandir. Voilà. Sa main s'apesantissait sur moi, dit David. Et ça finit par être lourd, pesant. Parce que Dieu nous appelle à revenir dans sa lumière, à revenir dans sa communion avec lui. C'est ce qui se passe quand on prend la communion de Dieu pour être facultative. Ce n'est pas une option possible, c'est notre raison d'être. Si vous êtes chrétien, ça y est, vous êtes déjà pour le ciel, quoi, et pour cette relation avec le Seigneur. Parce que Jésus a payé pour que nous ayons cette communion avec lui, avec son Père. Et nous lui avons dit, « Seigneur, oui, je veux cette communion avec toi. » Alors, eh bien, ça y est, le choix est fait. Maintenant, si quelqu'un tombe, alors Jésus demeure son avocat auprès du Père. Versets 1 et 2. Donc, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et c'est le dernier F qui concerne la communion. Il ne faut pas oublier qu'elle est une faveur que Dieu nous fait, une grâce que Dieu nous fait. Il nous accorde le privilège d'être en communion avec lui, même s'il nous arrive de chuter. La communion, Dieu veut la conserver continuellement avec nous. Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Un avocat, c'est quelque chose de précieux. Un bon avocat. Un bon avocat, bien sûr. Si quelqu'un a un litige, rares sont ceux qui essayent de défendre leur cause tout seul. Il y en a qui essayent, mais quand ça devient souvent trop compliqué avec les lois, etc., voilà, on préfère faire appel à un avocat. Et devant Dieu, en tant que juge, pas en tant que père, mais en tant que juge, il n'y a qu'un seul avocat qui puisse prendre notre défense, c'est Jésus-Christ le juste. C'est celui qui est irréprochable, qui n'a jamais péché, et qui peut dire, j'ai payé pour ce pécheur. J'ai donné ma vie, j'ai expié ses péchés. Cet avocat-là, eh bien, il peut prendre notre défense. Quand cet avocat prend notre défense, alors quel que soit notre péché, quelle que soit notre chute, elle nous est pardonnée. parce qu'il est avocat, mais aussi la victime expiatoire. Il a payé pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc pour tous les hommes. Il a payé pour tous les hommes. Bon, pour vous aussi alors. Il faut souligner que Jean ne dit pas « si quelqu'un pêche, il a un avocat auprès du Père qui continue à le défendre ». Non, il dit « si quelqu'un a péché ». Et il y a la notion de, voilà, il y a la prise de conscience, j'ai péché, je reviens au Seigneur. Mais l'avocat est toujours là, il attend. Et si on prend conscience de son péché, on dit « Seigneur, pardon, j'ai péché, c'est du passé, je veux revenir à toi », l'avocat est là, il est toujours là. En ce moment, Nicolas Sarkozy, avec son avocat, Thierry Herzog, vous avez entendu, ils ont des démêlés un peu avec la justice, hein, parce que lui et son avocat ont utilisé des lignes douteuses sous des noms d'emprunt pour essayer de cacher à la justice, justement, certaines conversations. Donc quand on a des choses à cacher, à ce moment-là, on peut se dire qu'il y a certains avocats qui sont plutôt du côté obscur. Hein, au niveau de la justice, on ne cherche plus trop la justice. On cherche les intérêts de son client parce que, eh bien, on est bien payé. Mais Christ, ce n'est pas un avocat véreux, lui. Il ne nous défend que si nous reconnaissons les faits et si nous nous reconnaissons coupables. Alors là, il nous défend. Il veut qu'on soit dans la lumière. Si on plaide coupable et vraiment repentant, alors là, il nous défend. Il est toujours avec nous. Et sa défense, elle ne repose pas sur notre innocence. Vous savez, parfois, les avocats, ils essayent de prouver, de bonne foi, hein, ou de mauvaise foi, ils essayent de prouver l'innocence de leur client. Mais Jésus-Christ, il n'essaye pas de prouver notre innocence. Nous sommes des coupables, nous sommes des pécheurs, nous sommes condamnés. Donc, il n'est pas question de prouver notre innocence, pas du tout. Christ n'essaye pas de faire croire que nous sommes sans péché. Non, si c'était sa ligne de défense devant le Dieu de toute la terre, ben c'est perdu d'avance. Perdu d'avance. Non, sa défense repose sur le fait que lui a subi le jugement à notre place. C'est ça sa défense. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si vous commettez un péché, vous méritez la mort, la séparation de Dieu. Celui qui pêche devant Dieu mérite de mourir. Et Christ, lui, a subi la mort physique. Il a subi en quelque sorte la mort spirituelle parce qu'il a été séparé de son Père. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il a crié. Donc il a subi la mort, il a subi notre jugement. Alors que lui n'avait rien fait, il était parfaitement innocent. Et donc sa défense pour nous, en tant que notre avocat, elle repose sur le fait qu'il a subi ce que nous méritons. Il a payé, lui juste, pour des injustes. Vous savez, si dans un tribunal, un juge estime qu'une personne doit payer une amende de 10 000 euros et que l'avocat dit à son client « je vais payer les 10 000 euros pour vous », c'est impossible, hein, impossible, hein, eh bien c'est tout, il paye les 10 000 euros et on ne va pas chercher à savoir d'où viennent exactement les 10 000 euros, est-ce que vous les avez gagnés, non, on paye l'amende et c'est terminé. Et nous méritions la mort. Mais Jésus est mort pour nous. Donc la dette est payée. Il a payé notre dette. C'est pour cela que Christ peut nous défendre, bien que nous soyons des coupables avérés. Il a payé ce que nous devons. Vous savez, dans un tribunal, quand un avocat défend quelqu'un, ben, souvent il est entre le juge et la personne qu'il défend. Et la personne qui défend est cachée derrière. Eh bien, c'est un peu de la même manière. Christ se met devant et nous cache. Et il nous défend. Et il nous protège. J'aimerais vous l'illustrer. Alors, on a une feuille. Une feuille qui est bien, qui est en bon état. Hein, blanche. Voilà. Ça, c'est ma vie et c'est votre vie. Et vous savez, au départ, hein, on se dit, oh, ben, ma vie, elle est comme ça, quoi. Hein. Elle est plutôt bien. Elle est assez propre, je ne suis pas un criminel, ça va plutôt bien. Mais si vous regardez profondément Hein, vous regardez au fond du cœur, vous allez un peu scruter tout au fond. Alors là, eh bien, vous allez voir petit à petit des choses qui ne vont pas. Hein. Il suffit de retourner un petit peu dans le passé. Retourner et essayer de voir un peu. Et puis là, vous voyez des points, des taches. Il y a des choses qui ne vont pas. C'est le péché, en fait. C'est le péché. Il suffit de retourner dans le passé. Parfois, il y a des péchés par omission. On n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Alors voilà. Hein. Et puis, il y a tous les péchés qu'on a vraiment faits. Parfois, la vie, elle est aussi abîmée, détruite. Hein? Elle a pris des coups. Et on a donné des coups aussi. Hein? Parfois, on nous a donné un coup parce que nous-mêmes, on avait donné un coup. Alors, comment on peut aller dans un ciel parfait avec une vie comme ça? Parfois, la vie, elle est même comme ça. Certains ont une vie comme ça, complètement broyée, déchirée, abîmée. Et ils se disent, mais comment je vais pouvoir aller au ciel avec une vie comme ça? Jésus-Christ est notre avocat. Il est celui qui nous défend. Il se met devant et il nous protège. Et j'aimerais encore vous l'illustrer. Imaginez, ça c'est Jésus. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Ça c'est votre vie, c'est ma vie, c'est notre vie. Comment on peut faire? Eh bien, il faut venir se cacher en Jésus. On le laisse devant soi, lui il va nous défendre, il est notre avocat. Et si on vient se cacher en lui, c'est-à-dire par la foi, on dit: Seigneur Jésus, je crois en toi, sauve-moi, protège-moi, pardonne-moi. Là, est-ce qu'on voit encore des points, des traits, des déchirures, des blessures, du péché? On ne voit plus rien. On est caché en Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu voit, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, eh bien, il va dans le ciel, hein. Il est déjà dans l'éternité. Et donc, si on se cache en Jésus-Christ, si on le prend pour notre avocat et on croit en lui, on se cache derrière lui, alors il nous défend, il nous protège. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et il nous donne la communion, une communion merveilleuse avec sa personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on reste dans les ténèbres? Qu'est-ce qui se passe si on ne cherche pas cette communion avec le Seigneur? Ben, Christ veut être notre avocat, hein, mais on est dans une situation où là, c'est difficile de nous défendre. C'est difficile. On ne perd pas le salut. Celui qui est sauvé, il est sauvé pour l'éternité. Mais Christ, dans cet instant, ne peut pas nous défendre. Et même le diable, parfois, peut nous cribler. C'est arrivé à quelqu'un dans la Bible. Vous savez, on a 1 Corinthiens chapitre 5, quelqu'un qui a fait... voilà. Il est resté dans les ténèbres, il est allé loin dans les ténèbres, il n'a pas voulu se repentir. Eh bien, il est dit carrément que, voilà, qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est-à-dire que Satan puisse le cribler et même le faire mourir, afin que son âme soit sauvée au jour du Seigneur Jésus. Mais quand même, il est évident que Dieu nous donne sa communion, on ne peut pas la brader. C'est une faveur, c'est une grâce. Alors n'oublions pas la fragilité de cette communion avec Dieu. Elle est comme un fil de soie qui se brise. C'est facile, hein? Tac, et il n'y a plus la communion. Mais en même temps, elle est si facile. Pardon Seigneur! Hop, le fil de soie est rétabli. La communion est redonnée. Et on est en paix. Alors, eh bien, on se dit, mais Seigneur, voilà, je ne peux pas la brader. Ce n'est pas facultatif, non, il faut que je reste avec toi et en communion avec toi. C'est une faveur qui est précieuse que Dieu nous donne.